Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu, de la divinité, une approche comparative ou une étude en tout cas entre le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran. Et j'ai plaisir pour aborder ce sujet de recevoir Madame Jacqueline Chabi. Jacqueline Chabi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure honoraire, vous êtes universitaire, arabisante, historienne, une historienne qui connaît bien les langues, ce qui est un handicap pour ceux qui ne les connaissent pas quand on fait de l'histoire. Et vous avez cette approche anthropologique et sociologique aussi des milieux que vous étudiez. Et votre dernière collaboration avec Thomas Romer a donné lieu à cet ouvrage « Dieu de la Bible, Dieu du Coran » aux éditions du Seuil. C'est Jean-Louis Schlegel, l'éditeur Schlegel, qui a recueilli vos entretiens. Quelle est d'abord la genèse de cet ouvrage et pourquoi cette volonté, ou cette idée même, de comparer le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran? Pour certains, c'est le même, pour d'autres, ce n'est pas tout à fait cela. Donc, il y aurait une unicité, mais avec des spécificités propres.
Eh bien, je dois dire que l'initiative vient de notre éditeur commun, les éditions du Seuil, et puis d'une, je dirais pas d'une complicité, mais d'une connaissance mutuelle depuis un certain nombre d'années, à la fois de Jean-Louis Schlegel, qui s'occupe des religions en général, qui est un grand spécialiste des religions, aux éditions du Seuil, et Thomas Romer, qui est le titulaire de la chaire milieu biblique au Collège de France et qui est un grand spécialiste de l'Ancien Testament, reconnu dans le monde entier. Il se trouve que depuis quelques années, je participe au colloque de Thomas Romer, qu'il organise au Collège de France, pour traiter dans ce collège qui traite de la Haute Antiquité, des textes bibliques, mais aussi de l'islam, le petit dernier de la série. Eh bien, je participe à ces colloques et donc notre éditeur commun, puisque nous avons publié chez le même éditeur, a eu cette idée de rapprocher nos points de vue parce que ce que nous avons en commun, je dirais pas que c'est un dieu, mais c'est une méthode. Et c'est ce qu'on appelle la méthode historico-critique. Or, cette méthode est bien développée dans le domaine biblique depuis un bon siècle, avec des retards dans certaines partie de la des contextes religieux, mais c'est une méthode qui est maintenant bien établie, qui s'appuie sur la sociologie, sur l'archéologie, sur l'étude critique des textes. Et il se trouve que moi-même, je m'efforce, concernant les débuts de l'islam, de mettre en œuvre quelque chose du même genre, à partir d'un donné quand même différent, puisque alors que pour les études bibliques on a des sources, on a des témoignages archéologiques, en ce qui concerne les débuts de l'islam, on est quasiment dépourvu de tout cela.
Il y a une réelle pauvreté archéologique là-dessus.
Il y a, concernant les débuts de l'islam, une réelle pauvreté archéologique parce que le milieu humain dont est sorti l'islam ne se prêtait pas à la construction de monuments somptuaires, et il y avait d'autres enjeux, et ces enjeux, je m'efforce de les retrouver à partir de l'étude de la société. Alors l'étude de la société, ça signifie quoi? Ça signifie définir un espace géographique, il faut savoir où les choses se passent. Ça signifie définir une temporalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un focus trop large, comme celui, si à la mode aujourd'hui de l'Antiquité tardive, il faut un focus sur un milieu social qui a réellement existé. Et à partir de là, on peut étudier non seulement les conduites des hommes sur ce terrain, mais également leur mode de représentation et leurs croyances.
Dites-moi, Jacqueline Chabi, la veine historico-critique dans l'islamologie contemporaine, peut-être chez les savants, chez les chercheurs, il n'y a pas de frilosité. En revanche, dans une approche confessante ou dans certaines autorités politiques, on freine des quatre fers. parce qu'il y a une réelle pusillanimité à encourager cette recherche et l'approche historico-critique.
Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il faut savoir de qui on parle. Si on parle des pays du monde musulman, le problème, c'est que le passé, et notamment le passé premier, fait partie des enjeux politiques du présent. Et donc, il est utilisé dans des idéologies contemporaines, et cela, évidemment, entrave considérablement une approche libre, une approche sans sanction d'autorité, sans fatwa, pour tout dire. Ça, c'est du côté du monde musulman. Alors, il y a évidemment des esprits libres, comme partout dans le monde musulman, mais ça n'est pas la doctrine officielle et généralisée. Ce qui se passe du côté, là où on pourrait avoir cette lecture libre de toute soumission à une autorité, dans le monde occidental, il y a un problème que, j'avoue, je ne comprends pas très bien. C'est que on ne part pas de l'histoire et des sociétés, mais on part du religieux biblique pour parler du religieux musulman. Et en faisant cela, on efface tout ce qui ressortit à ce qui était le milieu d'origine réel de l'islam. Parce que, comme toutes les grandes religions mondiales, l'islam est né quelque part. Ensuite, il a voyagé. Et si on veut se situer d'un point de vue historico-critique, il faut définir les contextes successifs dans lesquels l'islam s'est déployé. Et quand on change de contexte, eh bien, il y a une chose que le croyant ou l'honnête homme ordinaire ne perçoit pas, c'est que si les mots d'un texte sacré voyagent, inchangés, notamment quand ils ne sont pas traduits, ce qui longtemps a été le cas du Coran, eh bien, le sens qu'on donne aux mots, lui, change en fonction des contextes de société.
Oui, Jacqueline Chabi, si je vous suis bien et je vous écoute attentivement, c'est que là, nous pâtissons, d'une double difficulté. La première, du côté des musulmans et dans le monde musulman, on a une histoire sacrée et qui relève d'enjeux au pluriel politiques contemporains, et du côté de la recherche assumée et assurée par des non-musulmans, on est plutôt dans une approche sur un fond biblique religieux, et on pense qu'il y a ces tables gigognes, on a l'islam qui est inséré dans le christianisme inséré dans le judaïsme, il y aurait une filiation, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées que celles-là.
Alors, les choses n'ont rien à voir avec cela.
Très bien.
Pour comprendre quelque chose, il faut partir, je dirais, des formats de société auxquels on a affaire. Or, l'islam démarre dans un format très restreint, qui est celui de l'Arabie occidentale et de deux villes, La Mecque et Médine. Mais si je prends l'approche de certains biblistes, étant donné qu'ils ne prennent pas en compte ce terrain premier, ils arrivent même à l'effacer complètement et à dire que l'islam est né hors d'Arabie, qu'il serait né au nord de la Syrie, par exemple. Donc, on aboutit à des dérives que je dirais idéologiques et qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Alors, je pense que en tant qu'historienne, je m'efforce depuis maintenant de longues années de me battre au sens propre contre cette approche qui déréalise le passé de l'islam pour retrouver son humanité à travers les diverses évolutions sociologiques qu'il a connues. Parti du format très restreint des tribus d'Arabie pour constituer en très peu de temps un empire.
Et c'est ce passage dans un précipité de temps de la tribu à l'empire qui le caractérise, alors que du côté, par exemple, du judaïsme, on verra pour le christianisme peut-être un peu plus tard, et je regrette l'absence de Thomas Römer, mais pour des considérations contingentes, il n'a pas pu être des nôtres, mais nous aurons l'occasion de l'avoir ensemble, vous deux, afin de parler de ce sujet passionnant. L'histoire s'est faite sur des siècles. Pour la partie biblique, en revanche, pour du côté de la révélation coranique, les choses se sont faites dans un précipité de temps.
Effectivement, il y a ces deux formats. Alors, ces deux formats sont très différents parce que, le format biblique, on a l'impression qu'on a une narration continue, alors qu'effectivement, il reproduit un espace-temps de 8 à 9 siècles, un peu moins d'un millénaire, à travers les contingences politiques du Proche et du Moyen-Orient qui ont été avant tout des contingences politiques dans lesquelles un petit État a vécu des circonstances absolument dramatiques dans le jeu des empires qui se défiaient, que ce soit les Égyptiens d'un côté, les Assyriens et plus tard les Babyloniens, pour finir avec les Perses, avant que n'arrivent les Romains, qui vont détruire le temple de Jérusalem.
Alors que du côté de la naissance de l'islam, on est encore du vivant du prophète et immédiatement après, dans ce qu'on appelle le califat dit de la rectitude orthodoxe ou spirituelle, un passage d'un état tribal ou d'une situation, d'une configuration tribale vers quelque chose d'un peu plus confédéré, mais on est encore dans la péninsule arabique. Ce n'est qu'avec les Omeyyades qu'on sort du désert arabique.
On sort du désert avec les Omeyyades, mais je dirais qu'on ne sort pas encore du format tribal. La tradition musulmane nous donne des dates en nous disant il y a eu l'ère de l'ignorance et puis l'islam est apparu. Et la lumière fut, la lumière nocturne et bienveillante du divin. Mais l'historien ne doit pas se fier aux frontières qui lui sont données. Il doit trouver lui-même les frontières humaines qui sont des frontières sociologiques. Et je dirais que l'islam naît en Arabie, il reste en Arabie durant la période prophétique. Il va sortir d'Arabie à la mort de Mohammed et ensuite, à la suite de conflits internes entre les tribus, Mohammed, qu'est-ce qu'il met sur pied? Il met sur pied une confédération tribale. Parce qu'il faut parler en termes politiques compréhensibles, je ne dirais jamais qu'il met sur pied un État musulman.
Ça n'a pas de sens et c'est anachronique.
C'est complètement anachronique. Donc il met sur pied une confédération tribale qui, au miracle, c'est ça le miracle, subsiste à sa mort. Et c'est d'autant plus étonnant que l'alliance entre les villes de la Mecque et Médine date de 2 ans à peine. Mais c'est en fonction d'un intérêt bien compris que les deux villes restent unies et vont se lancer d'abord à l'assaut de l'Arabie centrale. Et les tribus de l'Arabie centrale, quand elles comprennent où est leur intérêt, c'est-à-dire qui est le plus fort, vont s'associer à cette confédération et c'est ce mouvement général des tribus d'Arabie qui va les porter hors des frontières d'Arabie, non pas pour diffuser une religion qui n'existe pas encore sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, mais parce que leur Dieu protecteur leur donne la victoire, leur permet de s'étendre hors des terres arabiques. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que les Omeyyades qui vont sortir d'une guerre interne, d'une guerre intestine entre les tribus, hein, c'est une affaire entre Arabes, entre tribus arabes, les Omeyyades, d'une main, vont gérer un empire, puisqu'ils vont continuer à s'étendre, mais quasiment en interdisant les conversions. C'est-à-dire que jusqu'à la chute des Omeyyades...
C'est un point qu'on connaît très peu.
C'est quelque chose qu'on connaît très peu, parce que pour devenir ce que nous appelons musulmans, il fallait trouver une tribu d'accueil. Et une tribu n'avait pas envie d'avoir une masse de personnes qui viendraient d'on ne sait où, dont on ne connaîtrait pas la généalogie et qui s'agglutineraient à leur tribu et qui pourraient y renverser, qui deviendraient une masse critique qui serait incontrôlable. Donc cette situation, d'une main la gestion d'un empire et d'une autre la mentalité tribale, ça reste jusqu'à la chute des Omeyyades au milieu du 8e siècle.
On est en 750 et les conversions qui seraient peut-être pas massives mais encouragées ou en tout cas actées viendront avec le début des Abbassides. Et vous-même dites, et ça m'a surpris, que la véritable théologie islamique commence aussi avec les débuts de l'ère abbasside.
Absolument. Le début de l'ère abbasside, c'est l'empire qui rompt avec ses origines tribales. La véritable frontière, elle est là. Et à ce moment-là, c'est une nouvelle société qui va se mettre en place. Et cette société, elle est composée de quoi? D'abord, ceux qui se rallient, je dirais les premiers, c'est les élites. Les élites proches du pouvoir, comme les théologiens mu'tazilites. Et ces théologiens mu'tazilites, ils sont nourris de la philosophie syriaque, de la philosophie antique. Ils vont lire les écrits d'Aristote, et non pas les écrits de Platon, mais de Plotin, hein, le néoplatonisme. Donc ce sont d'abord ces élites qui sont proches du pouvoir, qui vont commencer à réfléchir sur le statut du Coran par rapport au thème biblique qu'il contient. Et c'est à partir de là que la réflexion théologique va se mettre en place. C'est ensuite seulement, après d'un siècle après, que la masse de la population des villes, la population urbaine, va commencer à se convertir. Il y a donc, en fait, deux corpus qu'il ne faut pas confondre. Le corpus coranique, qui relève entièrement de la phase tribale, y compris de la phase omeyyade, puisque le Coran serait définitivement stabilisé à la fin du 7e siècle. Et ce que nous appelons la réflexion religieuse musulmane commence seulement avec les Abbassides.
حلو كسر الخواطر كل ساعة يا حلو كسر الخواطر كل ساعة
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'islamologue de renom qui est Jacqueline Chabi. Je suis extrêmement heureux de la recevoir. Vous êtes Jacqueline Chabi, professeure honoraire, arabisante, historienne. Vous avez une fine connaissance des langues de cette région que vous étudiez. Et aujourd'hui, nous parlons de la spécificité du Dieu du Coran par rapport au Dieu de la Bible. Tout à l'heure, et je ne voulais pas vous interrompre dans votre exposé passionnant, Vous avez dit la lumière nocturne bienveillante, ce qui sous-entend que si elle était diurne, elle aurait été peut-être malfaisante. Et c'est ça l'idée que le Dieu des Arabes, dans un premier temps, mais après on le verra dans le Coran, c'est plus une fraîcheur et une douceur la nuit que le soleil du jour par un temps caniculaire.
Alors effectivement, je dois dire que ce n'est pas mes professeurs qui me l'avaient dit, parce qu'on disait la lumière, mais je me suis aperçu un jour en travaillant sur les mots, parce qu'un historien des croyances doit travailler au plus profond des mots dans leur environnement. Je me suis aperçu qu'il y avait deux types de lumière, et que ça n'était pas du tout la lumière méditerranéenne, la lumière solaire qui était positive, c'était la lumière de la lune. Et il y a un mot spécifique qui désigne la lumière de la lune, en arabe, c'est le mot « nour », qu'on ne peut confondre avec la lumière du soleil. On ne peut pas dire, sinon, en commettant une erreur grave, on ne peut pas utiliser ce mot pour désigner le soleil. Le soleil est une puissance maléfique en Arabie, parce que c'est une puissance qui peut tuer si on ne peut pas s'en abriter. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans le paradis coranique, on est abrité du soleil. Il n'y a pas de soleil. On est dans une lumière douce qui est la lumière lunaire, qui est également la lumière de la guidance sur les routes des caravanes.
Oui. Alors ceci m'amène à vous poser la question même de Jean-Louis Schlegel quand il vous l'a posée, en vous disant « mais Allah est le Dieu des musulmans » ou quelque chose comme ça. Il dit « le Dieu de l'islam s'appelle Allah ». J'étais aussi surpris de la question parce que Allah n'est que l'appellation de la divinité en langue arabe. Ce n'est pas le Dieu de l'islam, c'est le Dieu de ceux qui parlent arabe.
Alors, l'apparition du nom Allah, qui est, je dirais, la contraction de Al-Ilah.
Avec l'aphérèse du « i » qui saute.
Voilà. Donc c'est le Dieu par excellence. C'est le. Alors c'est ça remonte au El sémitique, au vieux mot sémitique El qu'on trouve également dans le judaïsme évidemment, dans tous les textes anciens et avant le judaïsme, dans les religions pré-monothéistes, on a ce El qui apparaît. Bon. Dans le Coran, curieusement, ça n'est pas chronologiquement le premier nom divin qui apparaît. La première dénomination divine n'est pas Allah.
C'est Ar-Rab qui est le Seigneur.
La première dénomination divine, effectivement, c'est le Rab. Et le Rab, c'est le Seigneur. Mais que veut dire le Seigneur? Il faut revenir à un contexte réel. Le Rab, c'est le maître d'un territoire. C'est celui qui protège un territoire et qui est donc en alliance avec les hommes de ce territoire, parce que on est obligé de revenir au substrat sociologique. En Arabie, on ne survit que si on est dans une alliance. On ne peut pas vivre tout seul. Et donc, on a besoin d'une alliance entre les hommes, mais cette alliance entre les hommes est dupliquée dans le rapport avec le divin. On a besoin d'une alliance avec le divin. Donc le Rab, c'est l'allié des hommes qui habitent un territoire.
Lequel territoire se trouve être celui de la Mecque? Et là, vous précisez que ce n'est plus cette... on ne le dit pas maintenant, mais certains pensent que c'est une sorte de mégalopole de l'époque, alors que ce n'est qu'une petite bourgade. Et même les caravanes passent à 3 nuits de marche, plus à l'est de la ville, et ce n'est pas une oasis, et elle ne tient que par la source d'eau qui s'y trouve, sinon les Mécois seraient obligés d'aller chercher de quoi subsister plus loin.
Alors effectivement, je dois dire que pendant très longtemps, j'ai suivi ce qui se disait, y compris dans les milieux savants, et qui en fait était la suite de la tradition musulmane postérieure, la tradition de l'islam impérial, qui a survalorisé le lieu de naissance de l'islam, ce qui est bien normal quand on est devenu une religion impériale, on a besoin d'avoir un point de départ prestigieux. Donc les caractéristiques réelles, concrètes de la Mecque ont été effacées. La Mecque, effectivement, ne subsiste que grâce au point d'eau qu'on a découvert par hasard, on ne sait pas quand, dans un ensemble de vallées qui convergent vers un bas-fond qu'on appelle le Batn, le ventre de la Mecque. Le ventre de la Mecque, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la cavité de collection des eaux qui descendent vers ce bas-fond. Et dans ce bas-fond, le Batn, eh bien, il y a un puits permanent. Il y a un point d'eau permanent. Oui.
Et ceux qui disaient que c'était une cité importante avec des demeures somptuaires et cossues, et que ce qui s'y trouvait parmi les riches de Quraysh, les ploutocrates, qui s'habillaient avec du brocart, avec des fils d'or et qui mangeaient dans des ustensiles en or, c'est de la survalorisation dans
absolument,
le récit.
Absolument. Et alors, il y a également quelque chose qu'on lit encore beaucoup trop souvent. Vous avez dit effectivement que la grande route caravanière nord-sud qui longe la côte se trouve à l'est de la Mecque à 3 nuits de marche. Or, les grandes caravanes qui remontaient les résines précieuses comme l'encens du Hadramaut vers les pays méditerranéens n'auraient eu aucun intérêt à faire un détour de 3 nuits aller, 3 nuits retour, pour aller dans une bourgade perdue dans les montagnes de l'Ouest. Donc la route caravanière, dite route de l'encens, n'a jamais passé par la Mecque. C'est une survalorisation postérieure, de même que le fait de considérer les Mécois comme de grands caravaniers. Les Mécois étaient confinés dans les vallées de l'Ouest arabique, et il faut savoir que l'Ouest arabique, c'est une zone de montagnes, et au sud de la Mecque, de très hautes montagnes, puisque vous avez des cités qui sont à plus de 2300 mètres, je crois, à bas. Ta'if, à 70 km de la Mecque, se trouve à 1800 mètres d'altitude. Donc la Mecque est dans ces montagnes, et pas du tout dans un espace qui pourrait rayonner vers l'extérieur. Alors on me dit quelquefois, mais il y a la mer Rouge. Sauf que on ne s'improvise pas marin dans la mer Rouge. Les Mécois n'étaient pas des marins.
Oui, même s'il y a cette idée que si on a appelé la tribu qui s'y trouve Quraysh, le petit requin, parce qu'il y aurait eu quelques squales dans la mer Rouge.
Ah, il y a beaucoup de squales dans la mer Rouge.
Mais indépendamment de l'anecdote, la première occurrence du divin dans le Coran, c'est donc le maître de cette demeure.
Le maître de cette cité, le maître de ce territoire. Et alors, ce que vous appelez la demeure et que j'appelle aussi la demeure et non pas le temple, c'est le mot bayt. En hébreu, ce serait bête, hein, c'est le même mot. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bayt? Eh bien, c'est la représentation de la présence en ce lieu de la divinité protectrice. Alors, on pense à la Kaaba, effectivement. Mais définir la Kaaba comme un temple, c'est une extrapolation. La Kaaba, avant tout, c'est un mur qui soutient des pierres sacrées, dont il reste deux aujourd'hui. À l'est, la pierre noire. Et au sud, la pierre de bonheur, la pierre bienheureuse. Et donc, pourquoi est-ce que ces pierres sont maçonnées? Eh bien, tout simplement parce que le Batn de la Mecque, le bas-fond de la Mecque, est un lieu inondable. Et jusqu'à présent, les autorités actuelles ont réussi à faire toutes sortes de canalisations, toutes sortes de choses, mais il y a toujours de l'eau qui descend autour de la Kaaba. Et il y a des photographies qui montrent l'environnement de la Kaaba, je crois que c'est dans les années 47, à peu près, dans les années 40, où
avec
on voit...
des inondations.
Il y a une inondation terrible, et on voit des gens qui sont autour de la Kaaba avec quasiment de l'eau jusqu'à la taille, jusqu'au cou.
Oui, alors ça c'est la première occurrence du divin. Après on passe à Allah avec la contraction de l'article Al et le mot...
Pas tout de suite. Pas tout de suite.
Pas immédiatement.
Non. Il y a une phase intermédiaire.
Alors, je pensais que finalement... Ah, il y a le Rahman, bien entendu.
Voilà.
Ce que vous appelez, vous, le bienfaisant, que l'islamologie classique présente comme étant le tout clément, le tout miséricordieux. Pourquoi préfériez-vous, cher Jacqueline Chabi, plutôt l'appellation le bienfaisant ou le bienveillant que le miséricordieux?
Alors, d'où vient d'abord ce mot Rahman? Bon, c'est une racine qu'on trouve dans différentes langues sémitiques avec l'idée d'affection. Mais il se trouve qu'au Yémen, deux siècles avant l'islam, le judaïsme s'est implanté et un peu plus tard, une des formes de christianisme qui existait à l'époque. Et dans les inscriptions, et là c'est tout à fait des faits concrets, dans les inscriptions du Yémen, on voit apparaître, à partir du moment où le judaïsme s'est installé au Yémen, on voit apparaître le nom Rahmanan, donc c'est l'équivalent de l'arabe Rahman, et cette divinité est considérée comme étant le créateur du ciel et de la terre. Donc c'est celui qui possède tout. Et là, on aboutit à l'idée en arabe de khalq, la création, qui n'est pas, et là c'est quelque chose qui distingue le Coran des textes bibliques, la création n'est pas une domination, n'est pas un pouvoir royal ou impérial, la création c'est une possession. Mais le créateur, possesseur de ces créatures, doit leur assurer la vie. Et donc, le Rahman, en tant que créateur, dans un milieu qui est submergé par des enjeux de survie, puisque la Mecque était souvent dans une situation de famine. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas une oasis, effectivement. Quand on était à la Mecque, on pouvait boire, mais on ne pouvait pas manger. Pour manger, il fallait faire plusieurs jours de marche, au moins une semaine, au pas des chameaux, pour se procurer de la nourriture.
Ou parfois des razzias, ce qui était dans l'ordre naturel des choses.
Alors, les razzias, oui, je ne sais pas si les Mécois étaient tellement adeptes des razzias, les petites tribus nomades du coin, oui, parce que le but des razzias, c'était quoi ? C'était de piquer des chameaux, hein, d'aller voler les chameaux du voisin, mais sans se faire prendre. Et à condition que le voisin soit pas un allié, évidemment.
Et en respectant les fameux mois sacrés, parce que c'était l'opprobre absolu si on menait attaque durant cette période-là.
Effectivement. Alors, on comprend pas très bien aujourd'hui ce que c'est qu'une razzia. Parce que en français, ça a un sens tout à fait, je vais faire une razzia, ça a un sens tout à fait négatif. Mais je dirais que les razzias tribales d'Arabie, c'était le sport national. On ne s'attaquait pas à ses alliés, mais on pouvait aller voler les femmes et les chameaux d'un clan avec lequel on n'était pas allié. Mais pour réguler tout ça, il fallait quand même de la modération et on évitait de tuer. Ça, c'était très très embêtant si on tuait quelqu'un, parce que là, c'est la loi du talion qui s'appliquait. Donc, pour réguler tout ça, eh bien, les tribus, avant l'islam, avaient instauré des mois sacrés aux équinoxes. Il y avait les mois sacrés des Bédouins à l'équinoxe d'automne, et les Mécois avaient, eux, un mois sacré particulier qui était à l'équinoxe de printemps, qui était le mois de Rajab, le septième mois.
Et par pragmatisme, les tribus faibles ou peu nombreuses préféraient plutôt composer avec une tribu plus puissante. Et comme on a une sorte, comme elle est falote au niveau du nombre d'hommes, il ne fallait pas chercher le martyr en réalité.
Alors le martyr, c'est quelque chose qui est totalement inconnu, qui aurait été considéré comme totalement insensé. Quand une tribu était plus forte qu'une autre, elle montrait sa force. C'est d'ailleurs ce que Mohammed fera. Il fera des démonstrations de force mesurées. Ce seront pas des razzias massacreuses. On ne massacrait pas sur ce terrain. Je dirais qu'on était trop peu nombreux pour se permettre de se lancer dans des massacres. Dans les sociétés de petits groupes, on sait ce que c'est que la valeur de la vie humaine. Et le Dieu du Coran, qu'il s'agisse du Rab, du Rahman ou plus tard d'Allah, c'est un Dieu qui cherche à tout prix à protéger la vie et non pas à inciter les hommes à se précipiter vers le paradis comme certains le croient aujourd'hui.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Jacqueline Chabi, islamologue de renom, professeure honoraire, arabisante et historienne qui connaît très bien les langues et qui pratique la philologie, notamment de la langue arabe, pour nous rendre plus intelligibles les textes, notamment ceux du corpus premier et second. Et Jacqueline Chabi, donc pour cette troisième partie, j'étais en train de dire tout à l'heure quand j'ai omis de parler du Rahman, le bienfaisant, et qui est créateur, possesseur, on passe à la notion du Dieu, le Dieu, et la contraction entre l'article al, le, ou au grec, au théos, donc, et ila, dont on fera la phérèse du i, et il ne reste que là, et Allah, ça nous donne le Dieu. Alors, il avait, bien qu'il se défende, il y avait une présence de déesse ou de paraître, en tout cas déesse féminine, et là, la notion de Dieu un gomme ou efface la présence des déesses.
Alors, ce qui se passe, en fait, c'est quelque chose qui est en germe, je dirais, dès le début dans la parole coranique, dans la fameuse sourate 106. Qui pour moi est sans doute la première expression de la volonté de réforme et de c'est l'inspiration initiale du Coran qui présente le Rab de la Mecque, c'est-à-dire de la demeure mécoise, donc de la Kaaba, et qui de cette manière nous dit que ce Dieu protecteur, non seulement il garantit le point d'eau, mais il garantit également les voyages des Mécois. Or, on vient de le dire tout à l'heure, les voyages des Mécois, ce sont pas des voyages d'agrément, ce sont des voyages pour se procurer la subsistance journalière, puisqu'il n'y a rien à manger sur place. Et donc, cela veut dire que les Mécois, selon cette première parole coranique, ont un Dieu, non seulement qui les protège sur place, mais qui les protège également durant leur déplacement.
Cette fameuse double rotation de l'hiver et de l'été.
Alors, les deux voyages qui sont cités dans cette sourate 106 sont des voyages caravaniers. Il y a celui de la saison froide et il y a celui, non pas de l'été, mais je dirais du printemps avancé. Puisque quand il fait très chaud en Arabie, on ne se déplace pas. Donc le saïf, le mot saïf, qu'on traduit aujourd'hui en arabe moderne par l'été, c'est pas l'été. C'est avant la période des grandes chaleurs. C'est avant la canicule qui est personnifiée par Sirius dans le ciel, l'astre de la canicule. Donc ces voyages conduisaient les Mécois hors de leur cité. Alors s'agissait-il seulement de voyages d'approvisionnement ou de voyages un peu plus lointains qui auraient pu se développer? Mais en tout cas, quand on sortait de la Mecque, eh bien il se trouve qu'avant cette parole coranique, les hommes de tribu de la région considéraient que sur les pistes qu'ils empruntaient, il y avait des protectrices, ce qu'on peut appeler aussi des déesses. Et ces déesses, elles sont nommées dans le Coran au moment où on va signer leur disparition, c'est dans la sourate 53.
De 19 à 20.
Oui, c'est dans autour du verset 20. On nous dit qu'il y en a une qui s'appelle l'Uzza. Alors là, le Coran ne nous le dit pas, mais la tradition historiographique nous donne la situation de l'Uzza par rapport aux pistes. Eh bien, l'Uzza se trouvait à l'est de la Mecque, sur la piste justement qui allait rejoindre la grande voie commerciale. Une autre déesse, c'est El-Lat, qui se trouve dans la montagne de Ta'if, là où les Mécois allaient s'approvisionner. Et la troisième, Manat, se trouve sur la voie de l'ouest, en bordure de côte, sur la route qui va de la Mecque à Médine. Et donc, ce sont à la fois des voies de voyage, des voies d'approvisionnement. Je dirais qu'avant Mohammed, la tribu ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier. Il y avait le protecteur local du point d'eau, et il y avait des déesses extérieures sur les pistes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On peut se demander si, c'est une hypothèse, si les Mécois n'avaient pas essayé d'introduire CDS sur le site Mécois. Et alors là, il se passe quelque chose dans le Coran qu'on va retrouver par la suite. Qu'est-ce qui est reproché à CDS? Il est reproché à CDS leur féminité. Pourquoi leur féminité est reprochée? C'est pas de l'antiféminisme.
C'est ni de la misogynie.
C'est parce que dans la société de l'époque, la défense d'une tribu était aux mains des hommes de la tribu. Les femmes de la tribu n'avaient aucun rôle défensif. Et c'est comme si Mohammed se demandait finalement, dans son inspiration, si ça n'était pas une erreur de confier sa défense à des entités féminines au lieu de mettre toutes les garanties de protection sous la protection d'un seul Dieu. Et je dirais que on pourrait dire que ça se trouve en filigrane déjà dans la sourate 106, alors que l'idée de création n'est pas encore arrivée.
Et la notion de il leur a assuré la subsistance et puis il les protège ou il les rassure de la peur.
Alors la peur, c'est quoi? C'est la peur des attaques, évidemment. Donc cette sourate 106, c'est vraiment le condensé de l'attente coranique, parce que à la fois il y a la protection contre la faim, c'est-à-dire votre Dieu vous protège de la famine et vous protège des attaques. Alors, est-ce que c'est la Mecque qui était attaquée? Sans doute pas, parce que qu'est-ce que d'une tribu extérieure aurait été cherchée à la Mecque? Il n'y avait rien. Il y avait de l'eau et puis il y avait ce lieu sacré, justement parce que c'était un lieu très particulier. Je pense que les attaques, c'était plutôt les attaques quand on se déplaçait pour aller chercher de la subsistance ou pour se nourrir.
Et là, si je puis dire, le périmètre ou le champ de compétences, je mets des guillemets dans ce que je raconte, du Dieu 1 va s'élargir, y compris pour préserver et protéger durant les voyages sur ces pistes qui étaient dévolues dans un premier temps à CDS.
Absolument. Et je dois dire que l'idée de création qui est empruntée au champ biblique vient renforcer cette conviction première, puisque le Créateur étant possesseur de tout et, comme le répète le Coran, n'étant en manque de rien. C'est l'idée de Rina qui dit ça, hein, qui n'est pas la richesse, mais qui est le fait de pouvoir se passer de tout parce qu'on possède tout, et on possède tout de façon inépuisable. Alors qu'un chef tribal donateur, il va donner à la mesure de ses moyens, et ses moyens sont limités. Tandis que le Dieu créateur, lui, a des moyens inépuisables, il peut donc faire bénéficier de sa bienveillance qui il veut, quand il veut et à la mesure de ce qu'il veut.
Alors Jacqueline Chabi, comment se fait-il que la Mecque, dont vous dites à juste raison qu'elle avait un rôle second, voire secondaire, c'est une bourgade, était présentée dans l'historiographie classique comme une grande cité, bien avant l'avènement de la révélation coranique, le lieu d'un forum annuel, la fameuse foire d'Ocase, le lieu des joutes entre poètes et presque un lieu d'une vie annuelle, une vie marchande.
Alors, en ce qui concerne les foires, elles se situent à l'extérieur des cités. Ocase se situe à 3 nuits de marche de la Mecque, c'est-à-dire à proximité de la grande voie commerciale. Et effectivement, là, il y avait une réunion de tribus. Ça n'était pas les Mécois qui étaient les principaux acteurs de Ocase. C'était les grandes tribus bédouines qui se retrouvaient là. Et Ocase se trouvait sur le territoire de la tribu des Hawazines, qui se situait en bas de la montagne, donc du côté est de la chaîne côtière. Et c'est cette grande tribu des Hawazines, contre laquelle d'ailleurs va avoir lieu une fameuse bataille en fin de période prophétique, la bataille de Hunayn, qui est gagnée de manière miraculeuse. Je dirais que si la bataille de Hunayn avait été perdue par Mohammed à ce moment-là alliés aux Mécois, les Médino-Mécois, eh bien l'islam n'existerait pas.
Et alors, le pèlerinage sous sa forme anté-islamique, qui venait faire les circumambulations autour de cette demeure de forme cubique ?
Je dirais qu'en fait, il y avait deux types de pèlerinage. Il y avait le pèlerinage de printemps, de l'équinoxe de printemps, qui était le pèlerinage des Mécois. Alors, en quoi consistait ce pèlerinage ? Il consistait annuellement, on pourrait dire, à renouveler le contrat avec la divinité protectrice de la cité, et il concernait très probablement les citadins locaux, et non pas les Bédouins. Les Bédouins, eux, avaient un pèlerinage à proximité de la Mecque. C'est l'un des hauts lieux de l'actuel pèlerinage musulman, puisqu'on a confondu les deux pèlerinages anciens. Il se situe à l'équinoxe d'automne. Il y avait d'abord le mois des foires, dont en cave, et il y avait deux foires après qui étaient un peu plus proches de la Mecque, mais la grande foire avec les joutes poétiques, c'était en cave.
Et alors, les fameuses odes suspendues, les poèmes suspendus.
Alors les poèmes suspendus, c'est de la légende, il n'y a pas de poèmes. Les poèmes se disent, les poèmes ne s'écrivent pas.
Ça, c'est... Et encore moins sur des tissus ou des pans de lin.
L'histoire des poèmes suspendus, c'est parce qu'en arabe on dit le mu'allaqat, les suspendus, mais ça n'a absolument rien à voir avec des poèmes réels qui auraient été écrits. La poésie arabe se dit, s'improvise, mais ne s'écrit pas. Bon. Et donc le pèlerinage de Arafat, puisque c'est celui-là, c'était le pèlerinage des Bédouins. Et c'était un pèlerinage, je dirais, de demande de pluie. Parce que qu'est-ce qu'on faisait pendant ce pèlerinage ? D'ailleurs, on le fait toujours un petit peu de la même façon, sans se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Eh bien, on se tient de midi au coucher du soleil, en plein soleil. Et à la tombée de la nuit, qu'est-ce qu'on fait ? On descend en foule dans la vallée, et les historiographes nous disent que les tribus criaient le nom de leur tribu. Et qu'est-ce que ça signifie, ça, du point de vue anthropologique ? Cette descente en foule et en criant dans une vallée, eh bien, ça reproduit symboliquement la descente du flot dans un oued, la descente du seil. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on attend la pluie qui va faire pousser les pâturages du désert. Et quand on était arrivé en bas de cette vallée, donc c'était en deux étapes, il y avait Mouzdalifa et puis Mina, qu'est-ce qu'on faisait ? On sacrifiait, non pas des moutons. Où aurait-on été chercher des moutons ? On sacrifiait des chameaux,
oui, un camelin.
C'est-à-dire l'animal de pastoralisme des Bédouins de cette zone de l'Arabie et de toute l'Arabie d'ailleurs.
Nous arrivons au terme de cette émission passionnante avec vous, Jacqueline Chabi. Je vous pose cette dernière question et je suis navré de vous la poser comme ça et vous n'aurez pas beaucoup de temps pour y répondre. Quelles traces du fond biblique trouve-t-on dans le Coran alors que le Moïse du Coran est présent ? Il y a plusieurs péricopes, plus de 500 péricopes consacrés à Moïse. Qu'a-t-il de spécifique ou est-ce que c'est le Moïse biblique ?
Alors, le Moïse biblique devient le Moïse coranique. Et je dirais que l'itinéraire coranique de Moïse est censé préfigurer celui de Mohammed. Moïse a été mis en capacité par son Dieu d'affronter la pire puissance de la terre, c'est-à-dire Pharaon. Et Mohammed, à ce moment-là, est à la Mecque et il est affronté à sa tribu qui ne l'écoute pas. Et je dirais qu'il trouve une consolation et une similitude entre son destin d'inspirer incompris et un espoir de victoire au bout du compte grâce à la protection de son Dieu.
Oui, j'ai cru comprendre que vous disiez il leur parle d'eschatologie, des fins dernières, alors que ce qui prime pour eux, pour ces contribuables, mais quoi, c'est de quoi, comment survivre ici et maintenant.
Alors, l'eschatologie est introduite dans le Coran avant le thème de la création, et notamment l'eschatologie punitive, pour dénoncer le défaut de solidarité au sein de la tribu. Mais les Mécois ne croyaient ni à la création, ni à ce qui se passerait après la mort, ni paradis, ni enfer. Et donc, ce discours se développe dans le Coran, mais je dirais presque sans avoir de réponse positive. Il va se développer un petit peu dans le désert.
Merci infiniment. Merci, chère Jacqueline Chadli. C'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé du Dieu de la Bible et du Dieu du Coran, davantage du Dieu du Coran que celui de la Bible. Et chers amis auditeurs, vous retrouverez cette émission sur le site de franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son était assurée aujourd'hui par Éric Carrère et la réalisation était assumée par Marie-Laure Ciboulet. Thank you.